Bonsoir, nous allons commencer, même si la pluie ou les grèves, je ne sais pas, tarde encore des gens. Je vous ai mis dans les feuilles à prendre ce soir, d'abord la page numérotée 12, qui est la feuille de route, qui reprend un peu les éléments des quatre textes que nous avons vus du Nouveau Testament. Nous avions parcouru quatre textes de l'Ancien Testament, plus rapidement cinq, à vrai dire, du Nouveau Testament, trois textes d'ouverture d'écrit, particulièrement bien construits et assez denses, à savoir le prologue en quatre versets de l'Évangile de Luc, vous en souvenez, l'introduction de la lettre aux Hébreux, versets 1 à 4, l'ouverture épistolaire, comme on dit, c'est-à-dire l'adresse salutation de la lettre aux Romains, ça c'était trois ouvertures d'écrit, l'une chez Luc qui consistait à présenter un peu son projet, ses sources, son destinataire, etc. L'autre Hébreu qui nous introduisait déjà quelques éléments qui seront décisifs dans le déploiement de la lettre autour du sacerdoce du Christ, et la lettre aux Romains, dans laquelle on avait reconnu la structure habituelle d'une ouverture de lettre où l'apôtre se nomme, éventuellement avec ses collaborateurs, se qualifie et puis s'adresse à tel personnage ou telle église pour formuler un souhait, généralement de grâce et de paix, et puis de la part de qui ? De la part de Dieu notre Seigneur. Mais nous étions restés par l'aspect, le développement de plusieurs versets où cette adresse se singularise, annonçant déjà des éléments de nouveau importants de la lettre ici aux Romains. Nous avions parcouru l'hymne de la lettre aux Philippiens, qui est reprise dans le bréviaire, sur l'abaissement, l'élévation du Christ, en voyant le contexte où elle intervenait, c'est-à-dire à l'appui de ce que, juste avant, l'apôtre recommandait aux fidèles comme attitude à avoir eux-mêmes d'humilité et de renoncement à soi. Enfin, nous avions vu l'épisode de Zachée, qui est bien connu, en repérant comment lexicalement il est assez précisément construit et narrativement également instructif, tout en comportant certains leitmotifs importants dans l'évangile de Luc, l'invitation à la joie, l'aujourd'hui du salut de Dieu, etc. Donc là, je vous avais laissé une feuille de commentaires relativement précise sur cet épisode qui nous donne l'occasion aussi de voir la différence entre ce qu'on appelle une intrigue une intrigue portant sur les événements, ce qui va se passer, une intrigue de résolution, et d'autre part une intrigue qui mène à reconnaître l'identité d'un personnage, une intrigue de reconnaissance. Nous avons vu comment, dans l'épisode de Zachée, par exemple, les deux sont mêlés, puisqu'il y a un rebondissement au niveau de l'action, un Zachée qui monte, qui descend, qui est joyeux de recevoir le Seigneur, etc. Mais également un processus de reconnaissance de qui est cet homme, Zachée, pas seulement un homme petit de taille, publicain, pécheur aux yeux des foules, mais plus profondément pour le Christ, lui aussi est un fils d'Abraham. Et inversement, alors qu'au départ Zachée cherchait à voir qui est Jésus, bien, il va le voir se révéler précisément comme le fils de l'homme qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui est aussi, d'ailleurs cette finale, un leitmotiv lucanien que j'aurais pu relever. Par exemple, dans la parabole du père et de ses deux fils, mon fils, le voilà, il était perdu, il est retrouvé, il était mort, il est revenu à la vie. Donc ça, c'était pour un parcours de quelques textes du Nouveau Testament de genres littéraires différents. Dans cette dernière leçon, comme annoncé, je vous invite à prendre cette fois-ci la page intitulée 13.1, puis au verso 13.2, nous allons approcher la réalité de l'usage, la mise en œuvre, la mise à profit des Écritures dans la prière et la liturgie. Vaste programme, mais nous irons un peu à l'essentiel en pointant quelques points principaux. Dans la prière, d'abord, Bien sûr, il y a dans les textes bibliques des textes qui sont déjà en eux-mêmes, par leur formalité, des textes de prière. Les psaumes, les cantiques, les hymnes. Donc, ils nous donnent déjà directement des mots pour la prière. Et il est une manière spécifiquement chrétienne de les ressaisir. Pour le Nouveau Testament, bien sûr, ça va de soi, puisque déjà les auteurs évangéliques, dans les cantiques, par exemple, au début de Saint-Luc, célèbrent déjà le Christ qui vient en ce monde, selon leur foi, mais aussi une lecture spécifiquement chrétienne de ces passages de prière de l'Ancien Testament. C'est pourquoi non seulement les Juifs prient les psaumes, mais l'Église encore, dans l'office monastique ou la prière des heures, comme on dit pour les fidèles, eh bien, prie abondamment les psaumes, les prie comme tantôt s'adressant à Dieu dans le Christ, tantôt en voyant comment ils ont pu être priés par le Christ et assumés par lui, etc. Ou bien dans le psaume du bon berger, que j'ai déjà évoqué plusieurs fois, comment cette figure du bon berger se trouve éclairée par la manière dont Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, se présente comme le bon pasteur de son peuple. Donc il y a une relecture de ces prières, une réappropriation, pas simplement relecture, mais une mise en œuvre de ces prières avec des accents proprement chrétiens pour nous. Dans la prière, on peut noter, je pointe deux aspects, que peut revêtir la prière, un aspect de ce qu'on a appelé dans la tradition la lectio divina ou lecture sainte, qui est une lecture croyante et familière d'un texte biblique. C'est sûr qu'un incroyant peut tomber sur un texte biblique mais il ne se sentira pas touché, sauf grâce de l'Esprit Saint qui peut rejoindre les cœurs, mais de la même manière qu'un croyant. Donc c'est une lecture croyante et familière d'un texte biblique dans un climat de prière. Non pas dans le cadre d'un séminaire, d'un cours, d'une étude, d'un groupe biblique, sauf si celui-ci a l'habitude de terminer par une prière, il peut en être une dimension, mais par contre, le propre de la lectio divina est de se faire dans un climat de prière. Les diverses manières de faire ces lectures veillent toutes, là il y a deux mots trop dans la phrase, c'est un peu trop vite, veillent toutes à rester suffisamment proches du texte biblique. On prie à partir du texte, mais celui-ci n'est pas simplement un prétexte à de pieuses pensées. Les mots même du texte nourrissent la prière. Et pour cela, on procède en trois moments. Observer, méditer, prier. L'observation ou lecture attentive s'efforce de bien lire le passage pour lui-même, sans encore chercher la foi qui s'y exprime. Première manière de se préparer à méditer les textes du dimanche, c'est d'abord de lire paisiblement le texte en essayant de comprendre, éventuellement de le laisser s'éclairer par quelques commentaires si on s'y intéresse davantage exégétique. Bien lire le passage, c'est honorer le sens littéral, comme on a vu. On fait attention aux mots-clés, aux personnages, à ce qui se passe. L'épisode de Zachée, tel que je l'ai évoqué, se situait à ce niveau-là. On observait comment le texte était élaboré, fonctionnait. Mais à partir de là, vous pouvez le reprendre dans une démarche davantage priante. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui, recevoir avec joie et avec hâte le Seigneur dans ma maison? Deuxième étape, la méditation, à partir de l'observation précédente, donc non pas à côté de la lecture du texte, mais à partir de la lecture du texte, fait ressortir les convictions de foi sur Dieu, sur l'être humain, sur l'alliance qui s'exprime dans ce texte. On pourrait dire qu'il y a quelque chose là de la dimension du sens qu'on a appelé allégorique. Qu'est-ce que le texte me donne à croire, que je puis comprendre en réfléchissant, en méditant. Et puis la dimension davantage priante ou contemplative. Après un temps de silence, on reprend les mots, les expressions du texte médité, on se laisse toucher par eux, on les habite, on les fait sien, et on exprime au Seigneur, donc à ce moment-là, on se tourne vers lui pour lui parler. Pas simplement en train d'écouter le texte, mais à partir de ce que le texte a suscité, on peut s'adresser au Seigneur. On lui exprime comment la méditation rejoint ou provoque notre foi en lui, ou notre charité, ou notre espérance. Ce qu'on appelle la pratique de la lectio divina. pas tout à fait étrangère à cela, mais avec des insistances qui lui sont propres, la tradition ignatienne. Saint Ignace a lu sur son lit de convalescence et de conversion des vies de saints, mais aussi il avait connaissance des récits, des évangiles. Je suis un peu moins sûr qu'il avait une bonne connaissance ou un bon accès au texte de l'Ancien Testament ou à Saint Paul, mais en tout cas les évangiles, ça c'est clair qu'il invite dans les exercices à prendre le temps de les méditer. Dès lors, les contemplations évangéliques, c'est-à-dire qu'ils prennent pour objet de prière un texte, un passage d'évangile, sont déterminants dans les exercices spirituels. Comme dit Saint Ignace, le but c'est d'apprendre en méditant, ainsi en contemplant une scène, à mieux aimer et suivre le Seigneur Jésus. Donc le but est vraiment une perspective d'adhésion croyante et priante au Seigneur. Saint Ignace, dans ce cadre, insiste sur ce qu'il appelle la composition de lieu, c'est-à-dire la manière dont, après m'être mis en présence du Seigneur, lui avoir formulé mon désir de me laisser toucher par sa grâce, eh bien, j'entre dans la scène avec intensité, c'est-à-dire en mettant en œuvre toutes mes facultés d'imagination pour rejoindre la scène telle qu'elle se donne à voir dans l'évangile, à entendre. Je regarde les personnages pour eux-mêmes, j'essaie d'écouter ce qu'ils disent, j'entends la parole de Notre-Dame répondant à l'ange, je vois leur réaction, comment ils agissent, etc. Tantôt édifiante, tantôt dans l'évangile, pas nécessairement édifiante, mais précisément pour m'en laisser instruire sur ce qui en moi peut-être aussi résiste au Seigneur. Donc tout cela, voir leur personnage, entendre ce qu'ils disent, considérer ce qu'ils font pour en tirer profit en méditant, en réfléchissant et surtout en laissant se mouvoir notre disponibilité à faire la volonté de Dieu. Saint Ignace dit dans la prière, dans l'usage de nos facultés, la mémoire, l'intelligence, la volonté, eh bien l'usage de la volonté en tant qu'elle adhère à ce que Dieu demande mérite encore un plus grand respect, dit-il, que l'usage de l'intelligence. C'est bien de s'appliquer à comprendre, mais si on comprend ce que Dieu attend de nous, eh bien, on essaye de disposer notre volonté à répondre à ce qu'il attend de nous, à le faire. Lorsqu'Ignace dit d'imaginer la scène, le but est bien de trouver notre place dans cette histoire. C'est-à-dire, je contemple la nativité et, me dit Saint Ignace, je me mets à la place d'un petit pâtre qui est là, adorant le Seigneur du monde dans cette condition tellement humble. Je trouve ma place dans la scène. Ou selon la situation, c'est sûr qu'une personne qui est aveugle entend un récit où sont impliqués des aveugles d'une manière tout à fait spécifique par rapport à nous, ainsi de suite. Le but est de trouver notre place dans cette histoire. Il ne s'agit pas d'un effort intellectuel avant tout, même si sa dimension n'est pas exclue. Il ne s'agit pas avant tout de trouver des idées, car, nous dit Saint Ignace, ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l'âme, mais de sentir et de goûter les choses intérieurement. Il ne s'agit pas d'accumuler les réflexions, etc. D'ailleurs, il dit, si dans la prière je suis touché, par telle attitude, tel mot, et bien là où je sens que le Seigneur me touche, je demeurerai paisiblement, je laisserai s'ancrer ce sentiment, cette disposition, cette lumière en moi, sans vouloir parcourir, et si je n'ai pas été jusqu'au bout du texte, par le plus important, dit Saint Ignace, savoir sentir et goûter les choses intérieurement. Du reste, il ne craint pas, dans la démarche des exercices spirituels, de proposer régulièrement ce qu'il appelle une répétition, c'est-à-dire on a lu, on a médité un texte la matinée, on le reprend dans un temps de prière l'après-midi, la bis repetita placens, comme on dit, ça vaut aussi pour la vie spirituelle, la vie de prière. Il faut parfois du temps pour entrer dans l'accueil de ce que le Seigneur, à travers une contemplation, une méditation, nous demande. Voilà quelques réflexions sur la place des Écritures dans la prière, en tout cas la prière personnelle. Bien sûr, elle a sa place dans la prière aussi, que nous formulons en groupe, en assemblée, en communauté. Dans la liturgie, D'abord, nous nous souvenons comment la parole de Dieu a été, du point de vue catholique, quand même assez bien revalorisée quant à sa place dans la liturgie, que ce soit par le mouvement liturgique. J'avais évoqué cet abbé de l'abbaye de Solesmes, Don Guéranger, qui avait revivifié dans la prière de ses moines dans son abbaye le point d'ancrage dans l'écriture, ou bien dans le mouvement liturgique, le père Bouillet, qui est un grand liturgiste, dans les années 50, a proposé de belles réflexions, articles et livres sur le rapport entre la Bible et l'Évangile, l'Ancien et Nouveau Testament. Sensible à la liturgie aussi, il a élargi le champ de ses réflexions, l'architecture et la liturgie, et en tout cas en soulignant dans la manière dont les lectures liturgiques était choisi, organisé, la référence centrale, bien sûr, au mystère pascal. Ce n'est pas pour rien que, s'il y a une liturgie de la parole significativement déployée, c'est la grande liturgie de la veillée pascale. Dans un monde occidental, nous sommes un peu pressés, on se contente, si je puis dire, souvent des 7 lectures proposées, d'en retenir 3, hein, si elles sont bien lues, paisiblement, avec un répond d'un psaume, c'est déjà très bien, mais là, on a davantage le temps, dans des abbayes, ou selon les milieux, on prend le temps de lire toutes les lectures proposées, car elles sont extrêmement riches en cette veillée pascale qui est le cœur de la vie chrétienne, de la liturgie et aussi de l'écriture. Vatican II aussi a non seulement le mouvement liturgique, donc ses diverses formes et intuitions. Je vous ai rappelé l'importance des missels, des fidèles qui donnaient progressivement accès en langue vernaculaire, en langue courante au texte qui était lu dans la liturgie, etc. À côté de cela, il y a l'effort de Vatican II, qui recueille du reste des fruits du mouvement liturgique déjà amorcé avant. J'ai retenu 2 petits extraits de constitution du concile. La première constitution conciliaire, le concile a été convoqué vers 61, démarrant en 62. La première constitution conciliaire, rédigée, vous voyez, date de décembre 1963, en son numéro 24. Qui porte comme sous-titre « Bible et liturgie », il est dit « Dans la célébration de la liturgie, la Sainte Écriture a une importance extrême. C'est d'elle que sont tirés les textes qu'on lit et que l'homélie explique. » C'est dit rapidement au passage, mais il s'agit plus simplement de faire des sermons thématiques, mais l'homélie a pour fonction aussi de laisser résonner les textes que l'homélie explique, ou on pourrait dire « donne à goûter ». L'homélie ne doit pas être simplement explicative. Et ceci dit, qu'on lit, que l'homélie explique, ainsi que des psaumes que l'on chante. Le psaume est fait pour être chanté. Alors, dans nos assemblées, on n'a pas toujours beaucoup de dons pour le chant, mais en tout cas, il faut qu'au moins il y ait un refrain de psaume que lancé par le chantre, qui est repris par l'assemblée. Et idéalement, si tout le monde, si les strophes au moins peuvent être aussi chantées ou psalmodiées, ce n'est pas plus mal, puisqu'au départ, les psaumes sont littérairement écrits pour être chantés en hébreu. Mais s'ils sont bien traduits, on peut les chanter aussi dans nos langues. Le père Gélineau, je vous le rappelle, a fait un travail considérable de ce point de vue, en son temps, enfin parmi d'autres. C'est sous son inspiration, donc l'inspiration de l'écriture, et sous son impulsion, qu'aussi les prières, les oraisons et les hymnes liturgiques ont jailli. La présence de la Bible dans la liturgie, notamment eucharistique, n'est pas simplement dans le moment, même si c'est le moment principal, dans le moment des lectures. La Bible intervient aussi dans d'autres, elle donne des formules aux prières dites par les prêtres, hein, et aux hymnes. Et c'est d'elle, toujours, la Bible, que les actions et symboles reçoivent leur signification du pain, leur signification. Par exemple, au moment de la fraction du pain, voilà, l'enracinement se trouve rapporté par les évangiles. Il prit le pain, le rompit et le donna à ses disciples. Au moment où le prêtre dit au lavabo, lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Bien, il reprend des expressions, par exemple, du psaume de pénitence de David. Donc, même les actions et symboles, avec éventuellement les paroles qui les accompagnent, eh bien, reçoivent du donné biblique, si je puis dire, leur signification. La constitution Dei Verbum, c'est celle qui, vous vous en souvenez, est consacrée à la révélation divine, et c'est dans le cadre de la révélation que l'on situe la place de l'écriture au service de cette révélation. En son numéro 21, c'est dans la sixième partie de Dei Verbum, celle consacrée à l'importance de l'écriture dans la vie de l'Église, et spécialement dans sa vie liturgique. L'Église a toujours vénéré les divines écritures, comme elle le fait aussi pour le corps même du Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout dans la Sainte Liturgie, de prendre le pain de vie sur la table de la parole de Dieu et sur celle du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. Donc il y a ici l'expression de cette double table que constitue la table de la parole. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la table eucharistique proprement dite. Quand j'étais enfant, la mentalité souvent était encore « Oh, si j'arrive pour l'offertoire, ma messe est bonne, elle est valide. Je vais louper les lectures, ça c'est secondaire. » Tandis que la consécration, ben, c'est sûr, c'est important, il faut y être. Mais enfin, c'était quand même un peu déprécier la table de la parole. Et donc le concile a voulu quand même remettre cela en honneur, pour l'offrir au, donc la table de la parole de Dieu et celle du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. Il faut donc aussi que la prédication, on vient à l'homélie ecclésiastique, comme la religion chrétienne elle-même, soit nourrie et guidée par la Sainte Écriture. Voilà deux extraits de l'importance que le Concile Vatican II attribue à l'usage, la présence, la fructification de l'Écriture dans la liturgie. Dans la liturgie, la parole de Dieu intervient, j'aborde le point suivant. Il y a déjà une liturgie, une prière liturgique en quelque sorte, l'office divin, un office monastique, hein, et bien sûr une Eucharistie participe aussi de l'action liturgique. L'office divin, le bréviaire, il y a l'office des lectures qui offre, voilà ce volume-ci, le livre des jours, offre l'office des lectures pour un jour déterminé. Parfois, une lecture tirée de l'écriture elle-même, et qui est autre que les lectures de la messe, proprement dite, mais aussi, souvent, une lecture tirée d'un père de l'Église, une lettre de Polycarpe de Smyrne aux Philippiens, d'Ignace d'Antioche, Corinthiens, etc. Mais, donc, à côté de ces lectures non bibliques, il y a aussi, déjà dans cet office, dit précisément des lectures, des passages bibliques. Dans les autres offices, bien sûr, les matines, les vêpres, le donné scripturaire biblique principal, ce sont les psaumes et les cantiques. Puisque si vous allez dans une abbaye, les moines, ou vous participez à un office dans une communauté paroissiale, eh bien, le chant des psaumes et des cantiques occupe une place importante. Il y a aussi un moment dans l'office où il y a un extrait de la parole de Dieu qui est lu. Voilà. Mais également dans les antiennes, une antienne, c'est comme un petit verset que l'on dit en tête du psaume et puis après, elles sont souvent elles-mêmes tirées de l'écriture. Dans les réponses, c'est-à-dire on lit la parole de Dieu, et puis il y a une petite invocation ou chant de réponse qui fait écho à la parole de Dieu. Dans des hymnes, voire même dans des prières d'intercession, on sent que l'écriture est présente. Quand on lit l'office le matin, souvent je me dis, tiens, dans cette prière d'intercession, on voit manifestement que celle-ci est bâtie sur les béatitudes, par exemple. Que telle autre, elle est bâtie sur une hymne de Paul. Christ manifesté dans la chair, glorifié, etc. Un passage d'une des pastorales. Ce qui veut dire, donc ceci pour dire que dans l'office divin, l'écriture est présente non seulement dans les psaumes, mais à travers beaucoup d'autres éléments. Dans la célébration des sacrements, spécialement la liturgie eucharistique, je dis des sacrements en général, puisque pour un baptême aussi, il y a un extrait de l'écriture qui est donné. Dans le sacrement de réconciliation, il peut arriver que le prêtre, soit dans le dialogue avec le pénitent, évoque une parole biblique, ou qu'on commence par une prière biblique, qu'on soit invité à prier une prière d'un psaume, après, etc. Donc dans la célébration des sacrements, spécialement la liturgie eucharistique, bien sûr. Les antiennes d'ouverture et de communion. Vous savez, quand le prêtre arrive à l'autel, il baisse l'autel, et puis normalement, il dit une petite parole. Le Seigneur est mon rocher, heureux ceux qui s'appuient sur le Seigneur, etc. Il dit une petite parole qui est une antienne tirée de l'Écriture. Ou bien l'antienne après la communion, au moment de du moment de méditation, il y a une petite antienne destinée à soutenir la prière. Et si l'antienne n'est pas lue, c'est parce qu'éventuellement un chant d'entrée en tient lieu ou un chant de communion. Mais de soi, l'antienne d'ouverture, de communion, comporte un donné scripturaire. L'acclamation à l'évangile, aussi le petit verset qui est lu entre la reprise de l'Alléluia, début de l'évangile. Ça. Il y a dans le Gloria, dans le Credo, dans les prières eucharistiques, bien des éléments, bien des formules qui sont tirées assez directement de l'Écriture. Et surtout, évidemment, dans la messe, c'est la liturgie de la parole comme telle qui, elle, est comme telle dévolue à l'écoute, l'accueil de la parole de Dieu. L'organisation, donc, ça c'était pour rappeler les nombreuses occasions qu'un fidèle, s'il participe à la messe, ou si de surcroît de temps en temps il participe à des offices de matine, de vêpres, et bien les nombreuses occasions qu'il a de voir la parole de Dieu intervenir dans la liturgie. L'organisation des lectionnaires. Aux enfants de chœur, aux servants de messe, on doit apprendre la différence entre un missel. Le missel, c'est le livre qui est sur l'autel et qui sert aux prêtres avec les prières, les oraisons, la préface, etc. Le lectionnaire, c'est le livre qui est sur l'ambon. L'ambon pour la parole, qui est distingué du pupitre pour le chantre. L'ambon de la parole, le lectionnaire contient les lectures liturgiques. Il est important, à tel point qu'on a vu que dans les sources pour établir le texte biblique, vous vous souvenez, le texte grec, bien sûr, il y a les grands manuscrits, mais aussi, parfois, là où on hésite sur des variantes, on peut aller voir ce qu'il en est dans les lectionnaires anciens, c'est-à-dire, prenant pour lecture tel passage, quelle version ils avaient sur tel point sur lequel on hésite. Ceci rappelé par parenthèse, il y a trois lectionnaires. Il y a un lectionnaire pour dimanche, un lectionnaire dominical, lectionnaire du dimanche, un lectionnaire de semaine, comme on dit, et encore un lectionnaire spécial pour les fêtes des saints, le sanctoral. Donc trois lectionnaires, dominical, de semaine, ou bien qu'on dit parfois de la féerie, ça peut dire le temps ordinaire, vérial. Et le lectionnaire sanctoral. Le lectionnaire dominical, il est utilisé pour les dimanches, mais aussi quelques autres occasions, telles que Noël ou le Triduum, comme on dit, le Pascal, c'est-à-dire le jeudi saint, vendredi saint, et bien sûr la veillée et la nuit pascale, jour de Pâques. Donc c'est pour ces occasions-là qu'on utilise le missel dit des dimanches. Vous savez que les lectures en sont réparties sur un cycle de trois années, nommé A, B, C. Quand les mêmes lectures sont utilisées pour les trois années, par exemple à Noël, c'est quand même toujours la même chose, les mêmes lectures, c'est-à-dire vous avez le récit de la nativité, vous avez le texte d'Isaïe, par exemple, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière sur le peuple qui était dans le pays de l'ombre, une lumière s'est levée, etc. Ce beau texte d'Isaïe intervient, vous l'entendez, à chaque fête de Noël. Dès lors, comme c'est le même les trois années ABC, pour gagner de la place dans le lectionnaire, on ne le trouve que dans la section A. Mais donc si le lecteur ouvre son missel et dit pour Noël, oulala, l'année C, mais où est la lecture de Noël, il n'y est pas, je me suis trompé de missel, enfin de lectionnaire, ben non, cherchez dans la section A. Je dis ça parce qu'il y a quelques lecteurs ou lectrices parmi vous. Voilà. Donc, je reviens, elles n'apparaissent que dans la section A. La division des trois années, pour l'année A, l'année B, l'année C, on a chaque fois successivement les textes, évidemment, pour les dimanches de l'Avent, pour la fête de Noël, pour les dimanches du carême, pour le triduum pascal, pour les dimanches du temps pascal, qui vont courir jusqu'à l'ascension Pentecôte, et aussi pour les solennités du Seigneur, qui terminent l'année liturgique, qu'il convient de vivre, la fête de la Sainte Trinité, du Saint-Sacrement, la fête du Sacré-Cœur. Et puis, bien sûr, les textes pour les 34 dimanches ordinaires, dont le 34e est le dimanche du Christ roi de l'univers. Il y a encore un supplément, au sens où la fin du lectionnaire comporte une série de fêtes et solennités à date fixe, qui peuvent être célébrées le dimanche. C'est-à-dire, parfois, si elles tombent le dimanche, la transfiguration, normalement, dans son évangile, le 6 août, mais si elle tombe un dimanche, elle sera célébrée ce dimanche-là. Les lectures du dimanche, ça vous le savez, vous entendez une première lecture qui, la plupart du temps, est de l'Ancien Testament, sauf dans le temps pascal, où on entend un extrait des Actes des Apôtres. Le psaume ou cantique, parce que à côté des psaumes, il y a certains passages de l'Ancien Testament qui ont une forme de cantique appropriée aussi, parfois, donc en guise de psaume, à certaines fêtes mariales, vous avez des extraits du cantique du Magnificat de Notre-Dame, « Mon âme exalte le Seigneur ». Et la deuxième lecture est tirée d'une épître, ou bien de l'Apocalypse, et l'Évangile, Matthieu l'année A, Marc l'année B, Luc l'année C, et puis Jean à d'autres, à l'occasion de fêtes particulières, notamment. Le lectionnaire dominical. À côté de ça, il y a le lectionnaire de semaine. Bien sûr, pour les messes de semaine, du lundi au samedi, deux grandes sections. Il y a les temps forts de l'année liturgique, puisque en avant, il y a aussi des messes en semaine, le mercredi de la troisième semaine de l'avant, on va avoir des textes appropriés à l'avant, Noël, Carême, temps pascal, et le temps ordinaire, tout le reste, le lundi au samedi, de la première à la 34e semaine. Les lectures en semaine, vous savez que là, on n'a qu'une première lecture avant le psaume cantique, puis l'évangile. Pendant le temps ordinaire, les lectures des évangiles sont les mêmes d'une année à l'autre. Vous prenez le missel du temps ordinaire, le missel de semaine, au mardi de la septième semaine, qu'on soit du point de vue du dimanche dans l'année A, dans l'année B, dans l'année C, vous aurez toujours le même texte. Voilà. La première lecture et le psaume, par contre, cela se joue sur deux ans. Année paire, année impaire. D'où le lecteur doit, au septième mardi de l'année C, être attentif pour la première lecture, à ne pas prendre le texte de l'année impair, l'année paire. Je dis ça parce que c'est des choses qui arrivent. On lit le premier, donc les années impaires, le deuxième, les années paires. Durant les temps forts liturgiques, les lectures sont les mêmes d'une année à l'autre, en semaine. Là, toutes les lectures, pas seulement les évangiles, mais aussi les autres. Enfin, le lectionnaire sanctoral, qui s'utilise pour des mémoires de saints. Donc, il y a une gradation, il y a une mémoire facultative ou obligatoire, il y a une fête et puis il y a une solennité dans la gradation de la manière de célébrer les saints et saintes. Certaines fêtes, solennités, des circonstances particulières, des messes votives. On va voir ce que ça veut dire. Trois grandes sections, bien sûr, pour la célébration des saints. Leur mémoire est faite dans l'Église catholique, avec parfois des propres nationaux. Il y a quelques jours, c'était en France, pour la France, la fête de Sainte-Jeanne d'Arc, qu'on n'a pas nécessairement célébrée avec la même ferveur en Belgique ou en Angleterre. Bon, voilà. Alors, donc, où en étais-je? Parce que, oui. Diverses fêtes et solennités, comme par exemple la Transfiguration et l'Assomption, bien. Puis une série de lectures communes qui peuvent être utilisées en diverses occasions, pour la dédicace d'une église, pour une fête de la Vierge Marie, pour des martyrs de l'église. Voilà, on trouve un choix de lecture qui est proposé là. Des intentions et des circonstances diverses, donc il peut y avoir le désir de prendre des lectures pour célébrer en relation avec des situations particulières, familières ou exceptionnelles. Elles se répartissent en quatre catégories. Pour la vie de l'Église, pour la vie du monde, donc avec chaque fois des oraisons et des propositions de textes déterminées, pour la souffrance dans le monde, par exemple une messe pour situation en cas de cataclysme, une messe pour la paix dans le monde, par exemple. Et puis enfin des messes pour nous-mêmes et nos proches. Enfin des messes votives qui visent à rejoindre non pas tellement des situations que l'Église, le monde, nous-mêmes pouvons connaître, mais à contempler, approfondir des mystères chrétiens. C'est-à-dire des messes qui comportent des textes qui aident à approfondir le mystère de la Sainte Trinité, du Christ Rédempteur, du Saint-Esprit. Pour célébrant, on se dit, j'ai un motif spécial de vouloir aujourd'hui célébrer une messe au Saint-Esprit, bien, il a à sa disposition des oraisons et des lectures appropriées. Les passages retenus dans les lectionnaires, c'est feuilleter les tables et voir d'où viennent les textes qui sont retenus, c'est toujours intéressant. Je vous pointe quelques éléments rapidement. Pour les dimanches, il y a certains livres qui sont pas ou peu convoqués. Comme ça, on n'a pas d'extrait du Cantique des Cantiques ou du livre de Coëlette ou de certains autres livres. Mais du Pentateuque, donc les cinq premiers livres, les extraits qui sont utilisés dans la liturgie viennent de manière dominante de la Genèse, de l'Exode, du Deutéronome. Dans la lecture, on entend des extraits le dimanche concernant la Genèse, le récit qui concerne Abraham, ou bien l'Exode, hein, le don de la loi au Sinaï ou le veau d'or, ou le Deutéronome, etc. Des livres historiques, c'est surtout les livres de Samuel et des rois, qui donnent matière à l'utilisation liturgique. Parmi les écrits de sagesse, le livre de la sagesse et le livre de Siracide, et dans les prophètes, la place de choix revient à Isaïe, qui intervient dans les lectures dominicales des extraits d'Isaïe 40 fois. Jérémie et Ézéchiel une dizaine de fois. C'est-à-dire l'importance de ce livre d'Isaïe dans l'appropriation chrétienne qui en est faite dans nos liturgies. Les choix des premières lectures, hein, donc de l'Ancien Testament, sont faits en fonction de l'Évangile. Donc on a trois lectures le dimanche, et il y a une correspondance voulue dans le choix des extraits pour que, en fonction de l'Évangile, la première lecture y prépare. Tandis qu'entre les deux, la deuxième lecture de saint Paul, ben, elle suit son fil propre. Si ces dimanches-là, on est en train de suivre des extraits de la lettre aux Corinthiens, on va continuer. Donc la correspondance, quand vous méditez, est à chercher plutôt entre la première lecture de l'Ancien Testament et l'Évangile. Maintenant, pour des grandes fêtes et solennités, on s'arrange pour que toutes les trois lectures soient harmonisées autour de la thématique. Pour le Nouveau Testament, n'interviennent des lettres comme les 2e, 3e, mais qui sont des lettres brèves, de Jean ou de Jude n'interviennent pas, mais les autres lettres, si vous regardez, des extraits de Romains, de Corinthiens, d'Éphésiens, Galates, Philippiens, tout cela est bien représenté. Ce sont des extraits qui sont lus en continu, comme je disais, non pas qu'on lise toute la lettre aux Corinthiens, mais on suit le fil de la lettre, l'extrait, en deuxième lecture. Quant aux évangiles, ça je l'ai rappelé, selon leur Matthieu, Marc, Luc, c'est ABC, et Jean est plus spécialement réservé à des fêtes durant toutes les années liturgiques. En semaine, s'il y a un lien spécial entre la première lecture et l'évangile, ce n'est que le fruit d'un heureux hasard liturgique. Autrement dit, comme prédicateur, moi je ne cherche pas à tout prix à faire un lien entre la première lecture et l'évangile. Parfois, ça se donne providentiellement, qu'il y a un écho entre les deux. Mais vouloir à tout prix faire des élucubrations pour relier à tout prix la première lecture à l'évangile, non, comme chacune suit son fil propre, ça ne s'impose pas. C'est un commentaire personnel. Aux grandes fêtes et solennités, toutes les lectures sont choisies en harmonie. Le psaume, lui, il a toujours une fonction responsoriale. Les autres lectures, on les entend. Le psaume, idéalement, c'est la réponse du peuple à la parole de Dieu. Et donc, il a une fonction responsoriale. Et donc, on doit pouvoir adhérer au psaume, même si ce n'est pas nous qui le lisons, au moins en reprenant le refrain qui est dit, ou mieux, chanté. Idéalement, il y a certaines communautés où ça se fait, les gens ont tout le texte du psaume à disposition, et c'est toute l'assemblée, éventuellement en deux chœurs, ça peut se mettre en œuvre ainsi, c'est toute l'assemblée qui chante le psaume pour répondre, pour l'assumer et pas seulement l'écouter. Alors, le psaume fait souvent écho à la première lecture, puisqu'il vient après, mais en même temps, comme la première lecture a été choisie en fonction de l'évangile, il prépare déjà aussi un peu à l'évangile. Le psaume du bon berger, pour revenir sur cet exemple, si on a une lecture d'Ézéchiel qui parle de Dieu, pasteur de ses brebis, et puis un évangile de Saint Jean où Jésus dit est le bon pasteur, et voilà, l'ensemble, à ce moment-là, est bien harmonieux. Je tourne la page. Bon, je termine plutôt en prenant les deux annexes 34 et 35. Ceci, c'était pour vous donner un cadre, mais je souhaitais terminer un quart d'heure par des textes eux-mêmes. Et quels textes? Non pas des textes liturgiques eux-mêmes, des textes bibliques utilisés dans la liturgie, mais des hymnes, notamment utilisés dans le bréviaire, qui sont inspirés par les mots de l'Écriture. Et j'aime beaucoup, je vous avouerai, les hymnes du père Didier Rimaud. On a déjà rencontré ce nom. Je l'ai mis au bas de la page, vous voyez comment il s'orthographie, qui est décédé il y a quelques années et qui a composé une série de poèmes religieux et d'hymnes, mais qui étaient vraiment pétris de l'Écriture, outre la qualité stylistique de ces hymnes. Elles peuvent être mises en musique de diverses manières. Certaines hymnes de Rimaud ont reçu une musique plus monastique à l'abbaye de Tamier, hein, mais notamment en son temps, il y a 20-25 ans, Joachim Simas, qui est un compositeur, a mis en musique un certain nombre d'hymnes de Didier Rimaud, et le résultat de leur collaboration reste quand même de très grande valeur, je trouve. J'ai choisi quatre hymnes de Didier Rimaud. Une première, à l'annexe 34, convient pour le temps du carême. Pourquoi ? Elle décline des passages de l'évangile qui interviennent dans les évangiles de carême de l'année A, si je me souviens. En quel pays de solitude, 40 jours, 40 nuits, irez-vous poussé par l'esprit, qu'il vous éprouve et vous dénude ? Vous voyez, les temps sont accomplis et Dieu vous convoque à l'oubli de ce qui fit vos servitudes. Nous sommes dans l'entrée du carême, nous allons au désert. C'est ça qui est dit. Vous voyez combien c'est nourri d'expressions scripturaires. Là, il était seul au désert, 40 jours, 40 nuits. L'Esprit poussa Jésus qui venait de baptiser au désert. Vous éprouvez, vous venez. En même temps, c'est adressé aux croyants, cet hymne. En quel pays irez-vous? Voyez. Et puis j'ai mis en grâce dans toutes les autres strophes tous les impératifs, entre autres, qui sont des invitations à celui qui dit ou chante cet hymne. Vous avez peut-être déjà entendu la mise en musique. En quel pays de solitude, 40 jours, 40 nuits, irez-vous poussé par l'esprit, etc. Sur quel sommet d'incandescence entendrez-vous le bien-aimé vous parlant depuis la nuée, qu'il vous prépare à ses souffrances? Suivez Jésus transfiguré, demain il sera crucifié en signature d'alliance. C'est bien sûr l'épisode de la transfiguration. Alors, avant de lire les suivants, je vais remarquer que la métrique est régulière, ce sont tous des octosyllabes, hein, entre les pays de solitude, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, partout, d'abord, chaque fois, cette vers de 8 pieds. Voilà. C'est rimé aux endroits réguliers, solitude, dénude, servitude, premier vers, quatrième, septième. Dans la deuxième strophe, incandescence, souffrance, alliance, et ainsi de suite. Et puis les autres qui jouent dans la première strophe, nuit, esprit, accompli, oubli, qui rime du point de vue vocalique. Voilà. Dans la deuxième, bien aimé, nué, transfiguré, crucifié, qui rime vocaliquement. Dans la troisième, ne forez plus vos puits d'eau morte, vous savez bien le don de Dieu. et quelle est sa grâce et son jeu. Il vous immerge, il vous rénove. La vie s'élève peu à peu, les champs sont dorés sous vos yeux, embauchez-vous où Dieu moissonne. C'est bien sûr le bel épisode de la Samaritaine. Le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, qui vous émerge et vous rénove, ne forez plus vos puits d'eau morte, mais accueillez l'eau. Au contraire de l'eau morte, c'est l'eau vive. La vie, d'ailleurs, s'élève peu à peu, les champs sont dorés sous vos yeux. C'est ce que Jésus dit aux disciples lorsqu'ils reviennent lui apporter du pain. Regardez, les champs sont dorés pour la moisson. Il est en train de parler de la moisson des Samaritains. Ils vont croire en disant vraiment celui-ci est le sauveur du monde. Embauchez-vous, Dieu moissonne. Jésus parle de la moisson. Donc si on connaît bien le texte biblique, on voit les résonances dont c'est nourri, tout en s'étant donné des contraintes artistiques assez fortes. Ici, par exemple, morte, rénove, moissonne, c'est ce qu'on appelle des assonances. Ce n'est pas directement des rimes, mais vous voyez bien que c'est chaque fois le son O avec un E muet après morte, rénove, moissonne. Hein? Il n'est pas formellement attaché à des rimes absolument. Pourquoi ? Il faut trouver un équilibre entre les contraintes formelles et la latitude pour trouver les mots aussi, comme c'est quand même ça le but dernier, qui donne du sens. Pourquoi rester sur vos ornières, baissant vos fronts d'aveugle nez ? Vous avez été baptisés. L'amour de Dieu fait tout renaître. Croyez Jésus, c'est l'envoyer. Vos corps à son corps sont branchés. Prenez à lui d'être lumière. C'est bien sûr la guérison de l'aveugle né. Baissant vos fronts d'aveugle né, vous avez été baptisé, et en même temps, va te laver à la piscine de Siloé, qui veut dire l'envoyer. Croyez Jésus, c'est l'envoyer. Vous avez été baptisé. Le baptême est ce qui fait renaître. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Il faut renaître d'en haut. Comment cela se fait-il, etc. 5. Déjà vos tombes se décèlent sous la poussée du Dieu vivant. Regardez, Jésus y descend. Appelez-le, il vous appelle. Venez dehors, c'est maintenant le jour où la chair et le sang sont travaillés de vie nouvelle. Bien sûr, l'épisode de le retour à la vie de Lazare. Vos tombes se décèlent. Regardez, Jésus y descend. Appelez-le, il vous appelle. Jésus appela d'une voix forte. Lazare, viens dehors. Venez dehors. C'est maintenant le jour où la chair et le sang sont travaillés de vie nouvelle. Donc je trouve, c'est une belle manière de décliner en 5 strophes nourries d'écriture, thématique de 5 dimanches de carême de l'année A, et en le faisant sous la modalité d'une adresse aux croyants. Un autre texte s'adresse à Dieu, en dessous. Regarde où nous risquons d'aller, tournant le dos à la cité de ta souffrance, ta Pâque est lente aux yeux de chair de tes bourreaux, explique-nous le livre ouvert à coups de lance. Ça s'adresse à Dieu, ici. Regarde, ta Pâque, explique-nous. C'est les disciples d'Emmaüs, tournant le dos à la cité de ta souffrance. Tourne le dos à Jérusalem pour aller vers Emmaüs. Ta Pâque est lente aux yeux de chair de tes bourreaux. Explique-nous le livre ouvert à coups de lance et à la fois de l'Apocalypse et du Saint-Jean, les côtés transpercés. Mais on reste dans la perspective du chemin d'Emmaüs. Comment marcherions-nous vers toi quand il est tard, si tu ne vas où vont nos routes ? Ne manque pas aux pèlerins, là, c'est clair, mais viens t'asseoir. La nappe est mise pour le pain et pour la coupe. Il est en train de s'arrêter à l'auberge, Emmaüs. Puis le geste que Jésus va poser. Comment te serons-nous vivants et l'un de nous si tu ne prends ces simples choses ? Partage-nous ton corps brisé pour que le jour se lève au fond des cœurs troublés où tu reposes. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant, au cœur sans intelligence ? Donc c'est le moment où ils vont le reconnaître. Ce jour que nous sentons lever, nous le voyons à la clarté de ton visage. Ne laisse pas le vent de nuit ni les démons éteindre en nous le feu qui luit sur ton passage. Puis remets entre nos mains tendues à te chercher l'esprit reçu de ta patience. Éclaire aussi l'envers du cœur où le péché revêt d'un masque de laideur ta ressemblance. De nouveau, c'est bien écrit, hein, le premier vers est chaque fois en 8 pieds, puis les autres c'est des alexandrins, hein, tournant le dos à la cité de ta souffrance, qui rime avec coup de lance. Donc la rime entre le deuxième et le quatrième. De même dans la deuxième strophe, route, coupe, chose, repose, visage, passage, patience, ressemblance. Tandis que les autres vers ne cherchent pas spécialement une rime, c'est ce qui lui donne... quand même, s'il se donnait trop de contraintes formelles, il n'arriverait pas à respecter suffisamment la richesse du texte aussi. Troisième texte, une hymne de bénédiction. Dieu au-delà de tout créé, nous ne pouvions que t'appeler l'inconnaissable. Béni sois-tu pour l'autre voix qui sait ton nom, qui vient de toi et donne à notre humanité de rendre grâce. La récurrence dans les 4 strophes de l'expression « Béni sois-tu » que j'ai mis en grâce, fait dire que, c'est comme genre littéraire, c'est plutôt une hymne de bénédiction et qui s'adresse à Dieu. Il est au-delà de tout créé, Dieu personne ne l'a jamais vu. Nous ne pouvions que t'appeler l'inconnaissable, c'est la théologie un peu apophatique, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'a pas les mots pour parler de Dieu, mais Dieu, il s'est révélé. Béni sois-tu pour l'autre voix qui sait ton nom, qui vient de toi. C'est la voix du Fils, bien sûr, de l'Esprit, et donne à notre humanité en retour de rendre grâce. Et puis les 3 strophes suivantes, déclinées de la même manière, débutent chaque fois, « Toi que nul homme n'a pu voir. » D'abord, la vision. Puis la 3e strophe, ça sera l'écoute. Et puis la 4e, ça sera le toucher. Tant que l'homme n'a pu voir, nous te voyons, et on a compris depuis la 1ère strophe que c'est dans le Fils, nous te voyons prendre ta part de nos souffrances. Béni sois-tu d'avoir montré sur le visage bien-aimé du Christ offert à nos regards ta gloire immense. L'écoute, toi que nul homme n'entendit, nous t'écoutons, parole enfouie, là où nous sommes. Béni sois-tu d'avoir semé dans l'univers à consacrer des mots qui parlent aujourd'hui et nous façonnent. Le Verbe de Dieu s'est fait entendre dans la voix, bien sûr, de Jésus de Nazareth, mais déjà, il se donne à entendre dans l'univers. Puis le toucher, toi que nul homme n'a touché, nous t'avons pris. L'arbre est dressé en pleine terre. Béni sois-tu d'avoir remis entre les mains des plus petits ce corps où rien ne peut cacher ton cœur de père. Dans le corps du Christ livré pour nous, que dit la magnanimité, la générosité du cœur du père. Voilà. Moi, je trouve que c'est admirablement écrit. Enfin, un dernier genre, le narratif récitatif, si l'on peut dire, avec 5 strophes qui commencent chaque fois par « Voici la nuit ». Il a repéré, dans, après d'autres avant lui, mais il a mis en œuvre de manière tout à fait belle, diverses nuits dans la Bible. La nuit des origines, « Voici la nuit, l'immense nuit des origines », et rien n'existe hormis l'amour qui se dessine. En séparant le sable et l'eau, Dieu préparait comme un berceau la terre où il viendrait au jour. C'est le récit de la création. Les rimes sont à l'enseigne du « i » de nuit, origine, dessine, et dans chacune des strophes, il va trouver une rime en « in ». Palestine, divine, colline, épine, s'illumine, culmine, chemine, en ruine. Et on sent que c'est pas forcé, ça. Il sait écrire, hein. Et méditer, surtout, l'écriture. 2e nuit, celle de la nativité. Voici la nuit, l'heureuse nuit de Palestine, et rien n'existe hormis l'enfant de vie divine. En prenant chair de notre chair, Dieu transformait tous nos déserts en terre d'immortels printemps. La nuit du Golgotha. Voici la nuit, l'immense nuit sur la colline, et rien n'existe hormis le corps criblé d'épines. En devenant un crucifié, Dieu fécondait comme un verger la terre où le plantait la mort. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, mais s'il meurt, il porte du fruit, comme un verger. La nuit de la résurrection, voici la nuit, l'immense nuit qui s'illumine, et rien n'existe hormis Jésus où tout culmine. En s'arrachant à nos tombeaux, Dieu conduisait au jour nouveau la terre où il était vaincu. 5. La nuit d'Emmaüs. Voici la nuit, la longue nuit où l'on chemine, et rien n'existe hormis ce lieu d'espoir en ruine. En s'arrêtant dans nos maisons, Dieu préparait comme un buisson ardent, la terre où tomberait le feu. C'est la Pentecôte qui se profile. Vous voyez, ces quatre hymnes de Didier Rimaud, de genres différents, je dirais stylistiquement très, très construites, mais surtout très nourries vraiment de Bible, et trouvant chaque fois un fil conducteur, que ce soit les évangiles successifs de du carême, les étapes du chemin d'Emmaüs, la manière dont dans le Fils, Dieu s'offre à nos sens, à notre vision, notre écoute, notre toucher, ou bien le thème de la nuit décliné dans la Bible. Voilà, et au dos, je vous ai mis, mais ça, vous le lirez paisiblement par devers vous, un petit poème que j'avais écrit en son temps, à la fin d'un séminaire Saint-Jean, où là, je l'ai intitulé « Inclination joannique », au sens où j'ai pris des verbes qui, dans le texte de Jean, disent une manière de s'incurver, de s'incliner chaque fois, tourner, assis, gisant, descendu, courbé, prosterné, etc. Et en mettant en des vers de 7 pieds, cette fois-ci, chaque fois, un passage au fil du texte de Jean. Par exemple, le prologue, ceux qui le connaissent, « Tourner vers le sein du Père qui l'engendre de toujours, lumière de la lumière avant l'aube de nos jours, déjà le Verbe à la chair acquiesce et veut son retour à l'innocence première, aux demeures de l'amour. » Lumière, née de la lumière, etc. « Le Verbe fait chair », c'est le verset 14, « Le Verbe s'est fait chair », etc. Ça, c'est le prologue, Joannique. La Samaritaine, nous avons encore 5 minutes. Oui. La Samaritaine. Assis là sur la margelle, dans l'éclat du plein midi, le Messie voit venir celle qu'ont déçue 6 faux maris. Source d'eau pure, éternelle, jaillit dans son aujourd'hui, il se donne en vie nouvelle, c'est Dieu qui l'attire à lui. Le paralytique. Gisant, raide, condamné, prisonnier de son grabat, il voyait l'eau bouillonner sans que nul ne l'y plongeât. Jésus vient tout retourner, d'aucun murmure tout bas, qu'il finira condamné. Il s'est fait Dieu du sabbat. La multiplication des pains. Descendu, divine manne, du ciel qu'ils verront ouvert, retiré dans la montagne, redescendu sur nos mers, il nous promet pour nos âmes, non l'aliment qui se perd dans nos royautés profanes, mais sa chair, son sang offert. La femme adultère, courbée pour tracer à terre l'ajustement des regards, à l'aune de son mystère, Jésus sent chaque départ. Face à la femme adultère, est le même, enfin, sans phare, le pardon qui nous fait taire, dit qu'il n'est jamais trop tard. L'aveugle-né, prosterné dans la présence native offerte à sa vue, loin des mots de violence qui l'ont jeté dans la rue. Il naît d'une autre naissance. La parole qu'il a crue transfigure en clairvoyance la cécité reconnue. Chez Marthe et Marie, Lazare, tombant aux pieds du Seigneur, venu tard les visiter, Marie dit comme sa sœur, « Si là tu avais été !» Lui frémit, se trouble et pleure, mais parle d'autorité. Qui croit en moi, bien qu'il meure, vivra du ressuscité. L'onction à Béthanie, s'épandante en libation de parfum comme un saint crème, elle est toute à l'intuition du don qu'il fait de lui-même. Grain de Dieu, pure oblation, il s'en va comme on le sème. L'onction pressant la passion de celui que son cœur aime. Le lavement des pieds. Abaissé devant les siens, Jésus leur lave les pieds. Le maître à genoux se tient face à qui va le nier. D'avoir part à ce qui vient, dans sa Pâque purifiée, Pierre, après, saura que rien n'a tué son amitié. Le disciple bien-aimé, infléchi vers sa poitrine, le bien-aimé du Seigneur, vrai témoin des origines, reconnaît le prix de l'heure à la pulsation divine et charnelle de son cœur. La source y est cristalline, où l'esprit sourd à demeure. La mort de Jésus sur la croix, inclinant alors la tête, tout des écrits achevés, l'œuvre du Père parfaite, en la soif de nous laver, quand votre souffle s'arrête dessous l'écriteau gravé, auprès du Père où vous êtes, au Roi vous nous élevez. Marie-Madeleine, penchée au seuil de la tombe où nul désormais ne dort, Marie, d'au-delà du monde, s'entend dire « Viens dehors ». D'une blancheur de colombe, il s'est réveillé des morts, l'aube naissante et féconde du grain levé de son corps. La finale du chapitre 21, recueilli dessus le livre où Dieu parle raconté, sobrement l'âme s'enivre du verbe d'éternité. Sa vérité nous délivre aux rives de la clarté, mots de braise qui font vivre du vivant manifesté. L'apparition au bord du lac. Voilà, merci de votre attention. Thank you.